entière, on n'imagine pas l'enfer. On entend seulement l'oiseau, vienne Saint-Cout, il fait si beau. Dans un coin, une dédicace que le temps si lointain.
C'est drôle, quel temps fait-il, mais il vend des oiseaux. Sur un coin de trottoir, il vend des oiseaux. Aux enfants qui mangent trop, il vend des oiseaux. On vend bien de la musique. Je me suis associé aux oiseaux du quartier de toutes les cages. Ils ont la clé. C'est elle qui attendait le bateau sur le quai, en criant son costaud, mais il ne revient pas. Et crachant sur la mer, il ne revient pas. Elle est couchée par terre, mais il ne revient pas. C'est un gars du Pacifique, maudissant les flots, qui n'en ont rien à faire sans nos marins, qui rien que de l'eau. Se consolater, la veuve prit un moineau qu'elle acheta à Gino. Elle ne savait pas qu'elle semblerait si tôt. Elle ne savait pas qu'elle en tomberait pour Gino. Elle ne savait pas qu'on pouvait crever et revivre à nouveau. Allez, viens mon Gino, danser dans mon château. Je veux t'aimer.
Thank you. Eh ben, messieurs et mesdames, au 01 43 71 89 40, ben Monique a déjà bien du souci sur Radio Libertaire 89.4 sur Ondes de Choc, le dernier comptoir où l'on cause, l'émission qui peut faire et défaire les carrières à loisir, ben, y compris celle de Claude de Brabant, de Triboulet qui a bien des problèmes avec son casque, et puis ben, de Romain Pellas. Bonjour Romain, c'est la première fois qu'on se voit.
Oui.
On va se dire des choses. Alors c'est le principe de l'émission, on parle de plein de choses. Si vous voulez intervenir, vous intervenez sans aucun problème. Hein, je vous présente Monique en cabine. Alors là, faut saluer Monique, on ne peut rien faire sans elle. Hein. Je salue Monique, je salue aussi Jacques Coda. Tout le monde connaît Jacques Coda. Jacques Coda, vous savez qu'il est poète et peintre, et aussi alpiniste. Il a eu un accident parce qu'il s'est lancé à l'assaut de la butte Montmartre sur la face ouest. Il est tombé, il a fait une chute assez, assez remarquable. Les mauvaises langues disent qu'il c'était au sortir d'un bar où il y a des dames un peu... voilà. Moi, je ne veux pas le savoir, mais on lui souhaite quand même bon rétablissement.
Ben oui.
Bon rétablissement. Mmh. Aussi, à vous signaler que le 19 juin, ma Monique sera là pour en témoigner, nous recevrons Patrick de Haas pour le cinéma absolu 1920-1930. À vous signaler aussi que Christina SLB, dans une très belle exposition, ça dure jusqu'au 4 juin à la galerie des Patriarches, 12 rue des Patriarches, dans le près de la rue Mouffetard, c'est en Paris 5e. Alors c'est très bien, ça s'appelle Faire son âge. Elle a fait des trucs, elle a réussi à se vieillir. C'est douloureux, mais c'est très, très bien.
C'est une belle idée.
Ah, c'était une très, très, très belle idée. Et ben, on est là pour ce numéro d'empreinte. Alors, 41 déjà. Ça te fait remonter en quelle année, ça?
Il y en a deux par an, donc 41, ça fait 20 ans.
Tu as tenu le rythme deux par an jusqu'ici? Sans aucun problème. Donc d'accord. C'est printemps 2023, bah c'est toujours pareil, hein. Des artistes singuliers, des écrivains oubliés, des inédits d'auteurs contemporains, de littérature populaire, des curiosités de bibliophilie, des sites sur l'art brut, des vies remarquables, des fous littéraires. Bah c'est la revue Empreinte, sur le même schéma comme d'habitude. Te dire aussi que tu tiens une collection, que c'est les Peintres du Chaos.
Oui, les Peintres du Chaos, c'est des monographies de peintres en principe pas connus, voilà. Et ça, c'est des vraies monographies, c'est des livres de 200 pages, d'accord, avec des reproductions couleurs.
Tu en as un en projet ou pas?
Pour le moment, non.
D'accord. Non. On trouve Tristan Bastide, par exemple.
Oui.
On trouve Sven aussi.
On trouve Sven.
Donc, dont tu as reproduit, il y a 4 pages dans ce numéro d'Empreinte.
Oui, oui. Hein, on trouve un japonais.
Oui, j'ai cherché son nom, j'ai perdu son nom, figure-toi. Passons. Tu as encore des desserts de Sven ou à reproduire ou pas?
À reproduire en revue?
Oui, en revue ou en une chose comme
oui,
ça.
Oui, j'en ai, oui, bien sûr. Oui, oui.
D'accord. Ah, oui. D'accord. Et puis, bon, on va commencer, puisque Romain n'est jamais venu. Hein, c'est jamais venu. Romain Pellas, fils de Thérèse Pellas, c'est ça? J'ai bien compris?
Oui.
Alors, moi, c'est très, l'expérience est très intéressante. En fin de compte, c'est aussi très cruel. Je vais vous dire pourquoi. Parce que, et puis là, je vais engueuler Claude, parce que Claude m'avait prévenu du phénomène.
Oui.
Elle m'a dit que c'était des dessins qui étaient faits sur le phénomène de la maladie d'Alzheimer.
C'est pas tout à fait ça.
Allez-y.
En fait, ma mère a toujours beaucoup dessiné, et c'est quelque chose qu'elle avait comme passion. En dehors de son activité, elle était décoratrice. Elle était étalagiste décorateur. et travaillait avec mon père. Et elle a toujours dessiné. Elle a fait des arts déco et c'est quelque chose qu'elle a vraiment de façon récurrente fait. Et à la fin de sa vie, la dernière partie de sa vie qui remonte à 25-30 ans, elle a pris ça vraiment à bras le corps et elle l'a fait régulièrement chaque semaine. Et donc, ayant la maladie d'Alzheimer sur le tard,
hein.
Il y a une quinzaine d'années, ça avait été diagnostiqué. Elle est morte en 2021. Elle a décidé de vraiment faire ça avec ses amis, mais ses amis n'étant plus là, on a dû la mettre en maison de retraite, un peu spécialisée sur Alzheimer. À la maison de retraite de l'EHPAD Annie Girardot à Paris. Et là, elle était seule et je me suis pris d'initiative de continuer à faire des dessins avec elle parce qu'elle ne dessinait jamais seule. Donc, c'était la seule chose qui la faisait rêver. Et elle a décidé de elle était prête à ne plus en faire. Et donc, je lui ai mis un carnet à dessin entre les mains. Et tout de suite, elle a recommencé à dessiner. Et on a refait ce qu'on faisait enfant. Elle nous tirait le portrait. Donc, je me suis mis à tirer son portrait. Et c'est comme ça que ce jeu est arrivé. Et ce qui est formidable dans cette histoire, c'est que grâce à ça, on a gardé le contact. Et elle a eu un Alzheimer très lent. Et j'ai pas fait ça pour la maintenir en vie. J'ai fait ça parce que c'était l'amour du dessin, l'amour de l'art, comme le dit Thomas Hirschhorn dans le texte, de façon très brillante. Et aussi parce que c'était quelque chose qu'on avait dans la famille. On était tous liés à l'art.
Sa main est jusqu'au bout, quasiment. Oui. Et demeurer en contact avec le crayon pour faire ça.
Ce qui était très fort chez Thérèse, c'est que elle avait un talent pour le dessin, mais aussi avec cette grande difficulté, cette énorme fatigue qu'est la maladie d'Alzheimer, elle réussissait à s'échapper en dessinant. Et c'est ça qui était fort chez elle. Et donc, on a fait ça, et même les séances toujours duraient une heure et demie à peu près, et même si elle arrivait qu'à faire l'aube de l'oreille de mon frère, par exemple, parce que mon frère a tout de suite participé à ses visites quand il allait voir Thérèse aussi à le faire. C'est pour ça qu'il y a 132 dessins dans le livre et qu'on n'a pas fait de choix, on a tout présenté.
Et qu'est-ce qu'elle pensait des dessins, une fois que c'était fait? Alors, qu'est-ce qu'elle pensait des siens, déjà? Qu'est-ce qu'elle pensait des
elle
siens?
Elle était très dure.
Ouais, elle avait un jugement.
Ah oui, oui, elle a gardé son jugement jusqu'à la fin. Et elle était très critique sur tout ce qui était les arts visuels et aussi la mise en place des choses. Et elle trouvait toujours que ses dessins étaient plutôt médiocres.
D'accord. Non, mais je parlais de Claude qui m'avait prévenu parce que moi, celui qui m'a le plus intéressé, justement, c'est page 37 de la revue où on voit le monde de l'absence.
Oui.
Le visage a disparu.
Oui.
Hein? Voilà, c'est l'effacement.
L'effacement, voilà.
Hein, le manque, oui.
On voit le manque.
Et, ce qui est intéressant, c'est que moi, je pensais que ce manque allait perdurer et par moments, ça revenait.
Ça revenait.
Et ça, c'était très étonnant parce que, et c'est ça, le cerveau est plein de malice. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où c'est un peu dur, mais en même temps, le trait de la qualité de son dessin était présent. Et puis tout d'un coup, l'architecture de la mise en page, parce qu'elle était très proche de la sculpture dans son dessin, et elle avait une façon de mettre en page ses traits, et avec cette difficulté avec laquelle elle vivait, et qu'elle acceptait d'ailleurs, elle réussissait à garder le trait. Et ce qui était très beau, je trouve aussi, c'est que finalement, le trait, quand vous avez la maladie d'Alzheimer, vous ne vous souvenez plus de ce qui s'est passé il y a 2 minutes. Mais grâce au trait laissé sur le papier, c'était comme une sorte de bande enregistreuse par le dessin, l'outil, le dessin, qui faisait que ce rapport était là. Et il y a une chose qui est très importante aussi, c'est le fait de pouvoir consacrer du temps avec elle, puisque le dialogue était possible, mais plus difficile. Et ces séances de dessin avec elle étaient très fortes, parce que pour elle, c'était des moments de grande liberté.
C'est aussi tout ce qui se passe au fond d'elle, qui est secret, qui est enfoui. Il y a eu un reportage qui est très curieux à la télévision il y a pas longtemps. On est dans un EHPAD. Il y a une dame qui ne veut pas se lever, on ne sait pas. Et il y a un rat à côté. Une dame vient de temps en temps avec un cheval.
Oui.
Le cheval dans l'EHPAD, le cheval suit les couloirs de l'EHPAD. Il rentre dans la chambre de la dame. La dame le caresse et la dame brusquement se lève.
Ben oui.
C'est le grand secret de ce qui est...
Oui, alors il y a une différence entre créer une situation scénique presque pour donner des animations dans les EHPAD et puis certaines personnes, en fait les gens ont l'Alzheimer qui correspond à leur caractère. Et ça, je l'ai remarqué, je ne suis pas scientifique et je ne suis pas médecin, mais je pense que c'est vrai parce que j'ai vu des gens qui étaient, par exemple, une danseuse étoile belge qui a, quand on lui mettait le lac des cygnes, se mettait à danser sur sa chaise d'handicapée et elle devenait complètement gracieuse. Juste en écoutant... Et elle redevenait elle-même.
Donc ça a fait un livre, tout ça ?
Oui. Hein, donc, on a d'abord fait une exposition dans l'EHPAD à Nigérardot, qui était vraiment formidable. Et puis, en 2018, on a continué à faire les dessins. Et en 2020, j'ai fait le livre. Et on a rajouté l'année 2018, ce qui a fait qu'il y a eu 132 dessins. Et je n'ai pas voulu faire un choix. On a tout mis, parce que ce qui était intéressant justement, c'est l'évolution et la résistance de Thérèse face à son coup de crayon et sa faculté de percevoir et d'avoir ce jugement du faire le mieux qu'elle pouvait. Et ça correspondait complètement à sa matière première qui était le dessin. Suite à cette publication que j'ai réalisée, j'ai arrêté de dessiner avec elle et j'ai fait cette vidéo. Et quand vous avez cette maladie, vous n'avez plus de filet. Et vous parlez des choses essentielles. Et donc, sur les 7 vidéos, elle a parlé sur 3 sujets qui étaient très importants pour elle, dont le dessin.
Dans le dessin. Ben voilà, c'est très bien. Franchement, c'est très bien. Très bonne surprise, c'est très bien. Ce qu'on va faire, on va écouter un tout petit morceau de Jeff Sicard. Moi, je vais reprendre en disant quelques mots d'Éric Tessier des années clandestines et on plonge dans la revue.
D'accord. Alors,
Jeff Sicard, c'est le monsieur quand même qui a quand même fait l'exploit de venir ici et qui faisait trembler Monique.
Oui, Monique.
En a vu. Hein. Voilà. Merci, Monique.
Thank you.
Oui, bah, sur Radio Libertaire, 01 43 71 89 40. On va faire un petit détour par Eric Tessier, je crois qui tenait une émission sur Radio Libertaire, Place aux Fous, musique. Alors Eric Tessier a sorti un livre, Les années clandestines, c'est chez les éditions Duros, c'est la collection Bleu Turquin, tenue effectivement par Jacques Codal. Alors, Eric Tessier, des fois on se demande ce que c'est qu'un écrivain. Bah lui c'est l'écrivain, c'est-à-dire qu'il est dans sa brousse là-bas, dans sa banlieue, il est loin de toute forme de mondanité, il prend son ordinateur et il part. Mmh. Il fait un travail de langue remarquable, aussi bien sur son dernier livre L'extase du prédateur que là, Les années clandestines. C'est pas moral, c'est pas défendable. Mais au moins c'est clair, il prend des positions claires. Il montre dans son livre là que les roses c'est bien, mais c'est pas de la pornographie gratuite. C'est-à-dire que dès le départ, il se met en termes politiques. Il se met en termes politiques. Et la meilleure preuve, c'est que on a droit à une phrase de Kropotkine, hein. La bourgeoisie française, au moment d'entrer en scène en 1789, à la remorque du peuple révolté, savait bien ce qu'elle voulait, certainement pas. Elle n'était pas républicaine, elle l'est-elle aujourd'hui ? C'est une phrase magnifique, on est en 1909. Hein. Et après, il cite Élisée Reclus, l'anarchie, c'est l'ordre sans l'État, le pouvoir est maudit, c'est pourquoi je suis anarchiste, Louise Michel. Et il finit par le Marquis de Sade, ce n'est jamais dans l'anarchie que naissent les tyrans, vous ne les voyez s'élever qu'à l'ombre des lois ou s'autoriser d'elles, et c'est Sade. Hein? Donc tout ça est mené de main de maître, hein? Et en même temps c'est de la pornographie. Mais même le titre de son premier chapitre est déjà philosophique et politique, parce qu'il demande commettre un sacrilège, n'est-ce pas encore croire?
Bien sûr,
parce que moi je connais des gens qui ont renvoyé leur acte de baptême. Mais il s'adresse quand même à l'Église. Voilà. Donc c'est vraiment un livre anarchiste, mais au sens réel du terme, et c'est très 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 bien fait, avec une tenue en haleine qui rappelle celle des romans populaires. Hein, des romans populaires. Donc moi je vais revenir dessus sur ce livre, je vais en reparler, mais s'il y a un livre à lire, c'est Éric Tessier, Les années clandestines, édition Duros.
J'avais déjà beaucoup aimé L'extase du prédateur, c'était un livre formidable, un livre unique même.
Oui, c'est un livre unique et on retrouve là, on est dans une époque de censure où tout le monde est choqué, mais si l'écrivain n'arrive pas à révéler sa part maudite, sa part noire, faut pas écrire. On fait des articles où on fait de la morale, hein. Alors on brûle Genet, on brûle Burroughs, on brûle tout ça, hein. Et quand je parle de la part maudite, je ne parle pas de Céline qui lui fait des textes antisémites alors que les lois juives ont été promulguées. Hein.
Ça n'a strictement rien à voir.
Donc les années clandestines, mais j'y reviendrai. J'essaierai de faire une émission par téléphone avec Eric lorsqu'il sera là chez lui. Parce qu'il n'est pas là aujourd'hui, monsieur, pour m'écouter. Voilà. Bon, on est bien avec Empreinte numéro 41. Qui se lance à dire un mot de la couverture là, qui est absolument remarquable.
Elle est jolie.
Oui, elle est bien. Il s'est entendu, j'espère. D'accord. La gymnastique mécanique, Claude.
C'est un médecin de la deuxième partie du 19e siècle en Suède qui s'appelait Gustav Zander, qui était un kiné aussi et qui, sous prétexte, je ne sais pas si c'est la vraie raison, d'économiser ses forces, puisqu'il était kiné dans un collège de jeunes filles, a décidé de créer des machines qui feraient le travail à sa place. Et donc, il a dessiné des appareils de gymnastique qui sont absolument extraordinaires sur le plan visuel, avec des grandes roues, avec un système de poids et de contrepoids. Il y en a même qui sont à vapeur, qui sont des machines à vapeur.
Ça marche à vapeur.
Oui, il y en a. Visuellement, c'est formidable parce que c'est des énormes machines pour soigner un tout petit truc. Et ça doit être très beau à voir. Et ces machines, donc, il les a fait réaliser. Il a eu des mécènes pour les réaliser parce que ça a sûrement coûté assez cher. Et il a fondé un institut à Stockholm qui a ouvert avec 27 de ses machines. Voilà, et c'est assez somptueux. Alors,
tout se passe en costume de ville.
Alors oui, c'est pas encore l'époque de la gymnastique avec les survêtements et le jogging et tout ça. Donc c'est des gens en costume de ville, cravatés avec le gilet et qui voilà.
C'est des soins. Oui.
Et moi je disais hors antenne, si on va dans un gymnase actuellement, on retrouve les mêmes préoccupations.
Oui, je pense.
Et Romain faisait remarquer que c'était non, c'était passif. C'était passif, mais oui, sans costard aussi, ça va être beaucoup plus difficile qu'en survêtement. Hein.
Oui, voilà, ah, voilà, il y a ça.
Non, mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils n'ont pas du tout, ils n'ont rien à faire. La machine le fait pour eux. C'est le mécanisme de pensée qui est intéressant, là, parce que justement...
Oui, et alors ça permettait de régler.
Oui.
Selon le patient, on pouvait régler la force de l'effort à demander. Oui, voilà. Oui. Alors qu'un kiné ne le fait pas forcément.
La scoliose, oui.
Donc, tu as, comme fidèle à ta tradition, tu as récupéré, je ne sais pas où, des choses rares.
Voilà.
Parce que c'est aussi l'empreinte, on trouve des choses rares. Et on trouve, outre ces illustrations, ces photos magnifiques, on trouve les tribunaux comiques. Où c'est que tu as eu ça?
Je ne sais plus où c'est que j'ai eu ça. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Paul Hervieux, je peux te dire, mais là, j'ai oublié. C'est une chronique judiciaire de tribunal correctionnel à Paris qui est parue dans la Gazette des tribunaux de l'époque et qui était dirigée, cette Gazette des tribunaux, par Jules Moineau. Qui était le rédacteur en chef de la Gazette. Et donc, il a rendu compte de différentes audiences qu'il y avait au tribunal correctionnel, en prenant sans doute les plus marrantes ou les plus intéressantes.
Donc,
c'est du vrai.
Ah, c'est
ça.
Du vrai, c'est ce que je me suis
dit. Oui, oui.
Parce que je vais lire un petit extrait, mais on tombe sur
tout
la tête.
Tout ça, ce sont des affaires qui ont eu lieu et qui ont été jugées. Voilà. Et donc, il en rendait compte dans cette Gazette des tribunaux. Et après, il a réuni tout ça dans un recueil, hein, un volume. Mais ça paraissait régulièrement dans la Gazette.
D'accord.
Et Jules Moineau était le père de Courteline.
De Courteline.
Voilà.
Tu veux nous donner un exemple, non? Ça te dit?
Un exemple de quoi?
Reste avec nous. Reste avec nous, les tribunaux comiques, tu veux pas?
Attends, je les trouve sympa.
Je les
trouve
sympa. Voilà. Par autre chose,
ben, ça fait bien.
Voilà. Tu veux que je commence et puis tu suis? Qui page 31, une parenté entortillée. Voilà. Page 31, une parenté entortillée. Tu l'as là? C'est là en bas, là. Tu l'as?
Oui, oui.
Et dis donc, voilà. Comme ça, tu verras si tu t'entends. Parfait, quelle histoire. Il est difficile de démêler si dans l'espèce, il y a vol comme le veut la loi. Écoutons, dit-il, que ces gens-là, c'est la plus drôle des familles. Le père Blancheton était veuf. Il avait un fils de 22 ans. C'était un vieux rigolo qui avait mené une vie de polichinelle et qui nossait encore pas mal. Alors voilà qu'il se trouve une veuve qui avait de quoi et sa fille. Le père Blancheton dit à son fils, « Veux-tu qu'on se marie ?» Il y a une veuve et sa demoiselle. Le fils Blancheton répond qu'il le veut bien. Il demande à son père de le présenter promptement à la demoiselle. Pour lors, le père Blancheton lui dit, « Ah non, 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 ce n'est pas toi qui épouses la demoiselle, c'est moi. Toi, tu épouses la mère. » Ça défrisait un peu le fils Blancheton, mais comme la mère avait le sac, il dit, « Bah, je veux bien. » C'est bon, les deux mariages se font. Si bien que voilà le père Blancheton qui se trouve devenu le gendre de son fils, qui était par conséquent le beau-père de son propre père, vu que le père avait épousé la belle-fille de son fils, dont la fille devenait la belle-mère de sa mère. Rire dans l'auditoire, Triboulet.
Tous ces détails sont inutiles. C'est pour vous dire le galimatia, sans compter que la vieille qui avait un mari jeune faisait tout ce qu'il voulait, et que pour lors le fils Blancheton ne fichait plus un sou à son père qui était son gendre, et que ça faisait du chabanais dans la famille. Et arrivé donc au vol, lors des deux ménages ont chacun un enfant. Le père Blancheton une fille et le fils un garçon, qui se trouve être le beau-frère de son grand-père, de même que la petite fille était... Si vous n'arrivez pas au fait, je vais vous retirer la parole. J'y suis. C'était pour que vous compreniez finalement, ils ont tous fini par se brouiller comme les menuisiers avec les nœuds de sapin, et qu'un beau jour, le fils Blancheton a pincé à sa belle-mère, qui était sa belle-fille, puisqu'il avait épousé la mère, et qui était devenue veuve par suite de la mère du père. Blancheton lui a pincé les effets du défunt, vu qu'il dit qu'il est héritier de son père, et que la veuve dit que non, vu que le défunt était également le gendre de son fils, et que par conséquent, il ne devait pas hériter. C'est donc de là qu'elle l'a accusé comme l'ayant volé. Voilà l'affaire claire, comme le jour est très simple. Le tribunal a jugé que dans ces circonstances, la prévention n'était pas établie, et il a acquitté Blancheton fils.
C'est extraordinaire, non ?
Extraordinaire, quand même. Hein.
C'est un sac de nœuds pas incroyable.
Bon, je connaissais pas du tout Paulette Dumont. Moi, ça m'a mis mal à l'aise.
Ah, mais ça met plein de gens mal à l'aise, voilà, je vois. Ça met mal à l'aise Triboulet, ça met aussi mal à l'aise. Triboulet dit que c'est glauque.
Et c'est glauque.
C'est glouille, il y a un coup.
C'est une innocente.
Moi, je trouve ça très mauvais.
Vas-y.
Je sais pas, j'ai l'impression de... J'ai l'impression de... C'est pas très gentil de dire ça, mais je trouve que c'est mauvais. Il y a quelque chose qui, pour moi, esthétiquement et aussi artistiquement, est de l'ordre du... Je ne suis pas du tout sensible à ce genre de représentation et même le texte intégré dans la peinture, je comprends pas.
Laquelle
Violaine au violon.
Oui.
Le titre du tableau.
Oui.
Mais il faut bien comprendre, Romain, que Paulette Dumont, c'est une artiste singulière.
Oui.
Donc,
oui.
Il ne faut pas la replacer dans l'histoire de la peinture.
Non, on est bien d'accord.
Hein. C'est pas un peintre, c'est une artiste singulière qui n'a jamais été connue, qui a eu quelques collectionneurs sympathisants qui ont acheté quelques tableaux à bas prix, et puis c'est tout.
Oui.
Voilà.
Oui.
Elle vivait en Belgique, elle était mère de famille,
oui.
Et elle a fait son truc dans son coin.
Oui.
Bon. Donc, tu ne peux pas la juger sur les mêmes critères que tu jugerais Picasso, tu vois ce que je veux dire.
Non, mais si tu veux, quand tu je suis d'accord avec toi, je comprends le contexte, et c'est comme ça que je l'ai reçu, et c'est comme ça que je l'ai compris dans la revue. Mais si on me demande ce que j'en pense, je ne peux pas dire autre chose. Et sinon, je n'aurais pas dit. Mais je trouve que c'est un principe de vie. Quand on te demande ce que tu penses de quelque chose, c'est de dire ce que tu ressens.
Je comprends bien.
Ouais.
Mais je replace les choses. Parce
le
que...
globe Claude, c'est que l'acte, on va dire les choses comme elles sont.
Oui, c'est ça.
L'acte sexuel est lié... Avec la présence de l'enfant.
Avec la procréation, surtout.
Avec la procréation.
Qui est représentée par l'enfant, mais c'est l'idée de la procréation.
Mais tu vois très bien que le corps de l'enfant est complètement lié au corps de la mère, même dans l'érotisme du sujet.
Voilà, elle mélange tout.
Voilà.
Voilà. Mais ce mélange, je veux dire, il était il n'y a pas si longtemps dans la religion, il y est toujours un peu.
Oui.
L'acte sexuel est forcément lié à la procréation, sans ça il est un péché.
C'est un péché.
Voilà.
Procréation est un péché.
Ça, c'est bien bon, je trouve.
Mais il n'y a pas si longtemps que ça a changé. Ça a changé depuis la découverte de ça, depuis Bataille, depuis tout ça.
Mais au
19e siècle, c'était encore, et dans la religion catholique encore, on fait l'amour pour faire des enfants. On ne fait pas l'amour pour se faire plaisir.
Ce qui est gênant, c'est que théoriquement, tu fais l'amour, tu fais l'enfant après. Et là, tu as l'impression que là, tu fais l'amour et l'enfant est là.
Mais elle a amalgamé...
C'est ça qui rend le glauque du sujet.
Le glauque, il est dans le sujet lui-même. Le glauque, il est dans le fait de confondre le plaisir sexuel
l'utilitaire, tu vois. Dans la vie. C'est très proche.
Qu'est-ce qui est très proche?
La présence de l'enfant, du couple amoureux.
Oui.
Il y a quelque chose d'extrêmement étroit entre ces trois choses. Sauf si tu as des jumeaux, c'est encore pire. Mais je trouve que c'est quelque chose qui existe depuis toujours. Je ne suis pas historien, mais j'ai l'impression que la représentation... Ce qui vous choque, vous, c'est le fait de voir un rapport presque sexuel avec la présence de l'enfant.
C'est ça, voilà.
Mais oui.
Bah oui, mais c'est ça.
Oui, mais c'est ça. Mais
dans la Bible, c'est ça.
Oui, mais dire, c'est exactement ce que.
Elle représente, voilà.
C'est Gerbant.
Voilà, alors vous aujourd'hui, homme du XXe siècle,
non,
vous trouvez
faut
ça.
Pas dire ça.
Vous trouvez ça gerbant.
Non,
mais,
moi je trouve pas. Je trouve
pas. Et il y a encore beaucoup de femmes, en tout cas les catholiques, qui voient les choses comme ça.
Hein. Ah oui.
Et bah beaucoup de femmes qui le voient aussi comme ça, même sans être catholique, je crois. Hein.
Quand on est avec une femme, s'il y a cette présence, non seulement c'est gerbant, mais c'est très inquiétant.
Ouais, voilà. Oui, c'est juste. Mais oui, c'est juste.
Et ça, c'est votre point de vue moderne.
Hein.
Oui,
mais c'est juste. Mais bien sûr.
Casser,
voilà,
voyez-vous.
Bien sûr. Mais heureusement que dans ce numéro 41.
Mais non. L'homme n'est pas en érection.
Non, non, c'est.
C'est très sage.
Oui, c'est très sage.
Ah oui, oui, oui.
Bah, écoutez, Romain, on ne peut pas tout faire. Hein. On ne peut pas exagérer comme ça.
N'empêche qu'ils ont été refusés, c'est dit ça, je ne sais plus à quelle occasion de publication, sous prétexte qu'ils étaient érotiques.
Oui, mais je pense que Claude Brabant, je pense que c'est mal défini, qu'il y a quelque chose de glauque et de gênant.
Mais comme ça. Mais pourquoi tu...
Je sais pas, j'arrive pas à le savoir.
Oui, c'est un ressenti. Bah,
un ressenti, j'arrive pas à le savoir.
Elle vous pose un problème.
Elle me pose un problème. D'accord.
Bah, moi, c'était artistiquement, ça me posait... C'était pas le sujet du tout.
Et heureusement que Claude s'est sauvé au niveau de la morale.
Non, c'est vrai,
Monsieur Triboulet, merci. Que Claude s'est sauvé au niveau de la morale, car il y a quand même un beau texte amoureux et chaste dans ce numéro 41. C'est mon voyage de noces en ballon.
C'est joli.
Ça, c'est magnifique. Je ne sais pas, vous l'avez lu, hein, qui vous
non,
l'avez
j'ai
lu
commencé, mais j'ai
non.
pas pris le
voilà,
temps.
C'est magnifique.
C'est joli, hein, ouais, ouais.
Qu'est-ce qui se passe? On est en 1874.
Voilà, c'est donc Camille Flammarion qui est un scientifique et qui est aussi un poète. Hein.
Ouais.
Il se marie avec Sylvie Pétiot, qui était aussi très intéressée par l'astronomie. Et ils décident de faire leur voyage de noces en ballon. Et donc, il décrit ce voyage. Et ils vont en Belgique.
Ils sont de Paris en Belgique. Ils sont quatre dans le ballon. Hein.
Ils sont quatre dans le ballon. Il y a le technicien, enfin le pilote, si on veut. Voilà. Il y a Camille Flammarion, sa femme. Sylvie Pétiot, et il y a le frère de Camille Flammarion, qui n'a jamais été en ballon et qui les accompagne. Voilà.
Donc ils partent de la banlieue parisienne, et ils vont jusqu'en Belgique.
Jusqu'à Spa
en Belgique.
Voilà, c'est ça le but. Voilà. Et alors ils décrivent les vents contraires, ils reviennent sur Paris, ils sont obligés de repartir, enfin, c'est assez drôle, hein, ces voyages en ballon.
Ben, Romain, puisque tu étais là, tu retournes la page, non, c'est la gravure qui était là.
Pardon.
Par contre, c'est une des plus belles gravures, je ne sais pas si... Où c'est que tu l'as eu, cette gravure? Inventée pour le bien présent et celui de la postérité. C'est que tu as eu ça, parce que
ça, c'est sur Internet, Gallica.
Voilà. Voilà. Si quelqu'un, je ne sais pas, c'est un ballon. Tu l'as, Romain, là? Tu l'as, là? Oui. C'est magnifique. Oui.
Ce qui est magnifique, surtout, c'est l'idée d'emporter tout ce qui est nécessaire.
Voilà. Parce que...
Il y a un tonneau, il y a une cage pour l'oiseau.
Il y a même une voile.
Une voile, il faut imaginer une dimension énorme.
Il y a un corps de chasse.
Parce qu'il le globe, l'observatoire, le fanal, la galerie, le gouvernail, le logement du gouvernail.
Oui, c'est un ballon qui devient un seau.
Ah, oui, on dirait un immeuble. On dirait un immeuble.
C'est très symbolique, oui.
Hein?
Il y a la représentation symbolique de tout.
Puis il y a le coq gaulois sur le dessus. Là.
Ah. Ce qu'on va faire, puisque Monsieur Triboulet va avoir un rude travail tout à l'heure, là, on va écouter un peu de Jeff. Moi, je vais parler de mon ami Gladiator et je vais lire Gladiator. Et on donnera la parole à Monsieur Triboulet qui va suer sang et eau parce que ça va pas être facile de lire Sylvain Maréchal. Merci, Monique.
Thank you.
au 01 43 71 89 40 sur Radio Libertaire, bah sur Onde de Choc. On va poursuivre avec cette empreinte 41. Alors, avant de donner la parole pendant un bout de temps à Triboulet, qui va se lancer avec Sylvain Maréchal, je vais vous raconter une petite histoire par rapport à mon ami Jimmy Gladiator. Bon, nous étions amis depuis 50 ans, quelque chose comme ça, à peu près. Et un jour, j'ai fait le rangement dans ma bibliothèque. Qu'est-ce qui se passe? J'ai ouvert un livre que je n'avais pas ouvert depuis des lustres et est tombé un texte. Mais encore tout jauni. Encore la machine à écrire, voilà. Et j'ai dit, à qui pouvait en hériter, c'est Claude Brabant. On est en 75, Jimmy a des contacts avec le surréalisme, mais il comprend déjà que le surréalisme, ça commence à stagner sérieusement. Il va pas tarder à dénoncer ce qu'il appelle les surrés. Les surrés, c'est tous ces gens qui, en fin de compte, se sont encroutés et donnent actuellement un spectacle qui, moi, m'ennuie terriblement. C'est-à-dire que j'ai envie de dire qu'ils aiment bien, je chantis bien, mais voilà, il y a des conférences sur le surréalisme, c'est des conférences, c'est pas le surréalisme. Il y a des expositions sur le surréalisme, c'est des expositions, c'est pas le surréalisme. Et il y a aussi des films sur le surréalisme, ce sont des documents, mais pas le surréalisme. Et le Gladiator, lui, avait été dans le mouvement surréaliste. Dans l'insolence surréaliste, dans le rire surréaliste, il allait très très vite, et ça donnait ce poème. Alors déjà au départ, cadavre esquisse solitaire, tout le monde sait qu'un cadavre esquisse c'est commun, lui il l'a fait tout seul. Déjà, il faut déjà y arriver. Alors si on regarde ça, on est en 75, c'est pareil que le livre d'Éric Tessier, c'est pas très moral, mais il y a le souffle. On est dans le souffle, ça n'a rien à voir avec, je réitère, avec toutes les productions actuellement du surréalisme qui sont lisses et qui sont à bout de souffle.
Sages, qui sont tous
sages. Ils sont très sages. Ouais. Et Aline Gagnère, qui était une provocatrice, disait en 1935, elle appartenait à un groupe surréaliste révolutionnaire, que Breton s'était déjà encrouté. C'est une provocation venant d'une femme, femme à l'époque, mais si elle revenait maintenant, alors là, je ne sais pas quel terme elle emploierait par rapport à un certain monde. Donc, je vais vous lire ce texte-là. Alors, pour les moralisateurs et les moralisatrices surtout, on trouve le mot « violer » dans ce texte. On est en 75, on trouve le mot « violer ». Alors, il faut bien l'écouter, parce qu'à aucun moment, Jimmy Gladiator dit qu'il viole la femme, il viole l'image de la femme, ce qui est absolument différent.
T'as peur des féministes?
J'ai trouille. Je tiens à certains éléments. Je tiens à certains éléments de mon anatomie. Alors, cadavre esquisse solitaire, avec rien de métaphysique, de didactisme, d'analyse et de franche rigolade. Le sourire du poète se poste toujours en sens unique. Il a les yeux crevés. Vision. Cette femme qui sillonne de son pied les rues disparues, sous le pic et la sueur, cette femme qui passe dans les impasses. Elle a l'âge d'un panorama. Le poète lui arrache la langue, il attend pourtant une réponse dite. Il rêve de la sauter à minuit sur le pont de la rue Caulaincourt. Pour qu'elle ne dise pas non, il la poignarde dans la nuque sans prévenir ce dont elle avait connaissance préalable. Le poète meurt. Quelle que soit sa santé et les années vécues que ses bourreaux proclament années saintes de mort violente. Quand la mort arrive, il la reconnaît. La vision femme, tout ensemble gamine et pute. Il lui dérobe ses larmes pour s'en remplir les testicules. Il viole sa vision sur le pont de la rue Caulaincourt. Il éjacule et les larmes de la belle pleurent entre ses cuisses. Elle jouit de sa propre tristesse autant que de la mort du poète qui est un faux bourdon. Il bise aux oreilles de celle qui passe dans les impasses. Il a des couteaux d'ivoire qui lui servent de touches de piano pour plaquer ses derniers jours. Le poète essaie de coller bout après bout les morceaux de sa vie qu'il a oublié de numéroter dans l'ordre. Ceci, ceci et cela. Il frappe au pourlevis et boit le thé avec Satan. Il mange la chair des crocodiles mangeurs d'hommes. Mais cette femme, il n'en connaît pas que le nom. Il rêve de la sauter à minuit, une nuit de Saint-Sylvestre, celle de 1999. À la lueur d'un flambeau rouge de son sang, il a fait des chandelles. Le poète est son propre esclave. Poutre et bec de gaz. Il pense à des lettres d'amour qui commenceraient par ceci. Et mon testament, sagesse mordue aux lèvres. Il crie au loup en s'apercevant dans les yeux de celle qui passe à minuit sur le pont de la rue Caulaincourt. Parfois, il écrit quelques mots. Il se sert en guise de porte-plume d'une vieille blessure qui l'empêche de cicatriser en lui arrachant la peau chaque matin au réveil. Parfois aussi de son sexe, et ce sont encore les larmes de la belle. Il viole les mots. Il viole la vie, il viole ses rêves, le temps qu'il fait, le fond de l'air, la fraîcheur de la mort. On dit de lui qu'il s'auto-sodomise. Mensonge, le poète n'est pas un acrobate.
Il colle des miroirs bout à bout, le teint à l'extérieur et les brise aussitôt. Il poste des rendez-vous et n'indique jamais ni le lieu ni l'heure. On le voit rôder vers le passage des Soupirs, la rue Stendhal, la rue de Palestro, la rue Vivienne, la rue Pernelle, le boulevard Saint-Michel. Mais ce n'est pas là plus qu'ailleurs. Il attend comme toujours sa vision femme pour la violer au fond des impasses, sous une porte cochère, pour lui dévorer le cœur et la langue, pour croquer ses yeux, pour jouer au petit pousset avec les miettes de son cerveau qui ont picoré les oiseaux, ceux qui nichent sur les socles vides des squares et des ronds-points. C'est ainsi qu'il renouvelle ses longs secrets. L'air du temps, le canal d'or est en feu. C'est superbe, non? Hein, c'est beau, non? C'est beau, voilà, c'est beau. C'est le souffle. Pas oublier qu'il il a, on est en 75, c'est quand même un jeune homme qui vient de découvrir l'Autréamont.
Ah hein, ouais, ouais.
On est dans une tradition.
Oui, oui, on voilà, est dans un style.
Voilà, ouais. Hein, donc voilà, ça chante. On écoute de la musique et Triboulet au travail sur Sylvain Maréchal, que je présenterai quand même. Et après, tiens, voilà. Voilà. Avec Claude Brabant, on en a parlé de morale à propos du livre d'Éric Tessier et du poème de Jimmy Gladiator. Et ça, oui, c'est un très très beau texte, effectivement. Romain l'a trouvé très beau, hein. Il ne connaissait pas du tout. Dites donc, toi, tu n'as pas honte de publier des gens qui, en fin de compte, sont misogynes, comme Sylvain. On parlait de morale. Il a un problème avec les femmes.
Ah oui, oui, mais je trouve ça intéressant, moi, la misogynie.
Vas-y.
C'est difficile un peu de parler de ça, mais je trouve que ça éclaire beaucoup sur le comportement masculin. C'est une forme de paranoïa. Et donc c'est intéressant. Mais je me sens pas attaquée par la misogynie. C'est comme un racisme. Le racisme, il ne faut pas se sentir attaqué parce qu'on est victime du racisme. On est au-dessus de ça. Donc, voilà, c'est le problème du raciste, le racisme. Mmh. Et c'est le problème du misogyne, la misogynie.
C'est dans lui.
C'est en lui, c'est son problème interne. Mmh. On n'est pas mis en question à cause de la misogynie. Ce serait stupide de penser ça. Comme un noir n'est pas mis en question parce qu'on est raciste anti-noir, je veux dire.
C'est sa part maudite, c'est son trou noir et sa part maudite.
C'est sa paranoïa, c'est son angoisse.
La victime de racisme ou la victime, quelle qu'elle soit, liée à l'origine des personnes, ça c'est un idéal, ce dont tu parles. Mais mais les gens qui ont écrit sur ça, par rapport à l'homosexualité, par exemple, c'est compliqué, encore aujourd'hui.
C'est compliqué.
Il y a des gens qui ressentent d'être victimes parce qu'ils sont discriminés. Et c'est une réalité absolue.
C'est-à-dire que quand la discrimination passe dans les faits, ou bien sur le plan légal et institutionnel, ou bien sur le plan individuel, parce qu'on se fait agresser dans la rue, évidemment, c'est pas supportable. Oui. Voilà. Mais sans ça... c'est le problème du racisme.
Oui.
Donc, oui, pardon.
J'ai dit, l'histoire le répète, et c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que c'est ça qui n'a pas évolué. L'histoire recommence sans arrêt de créer des problèmes de racisme.
On ne supporte pas la différence.
De division,
en fait. On ne supporte pas la différence.
Oui, voilà. D'exclusion. Si je travaille avec des matériaux de construction que l'on connaît, c'est parce que justement je ne travaille pas avec des matériaux précieux. Et voilà, pour donner un exemple concret vis-à-vis de les gens qui peuvent regarder quelque chose d'artistique pour que les gens ne se sentent pas intimidés.
Donc Sylvain Maréchal, c'est 1750-1803, en plein dans la Révolution. Hein. Il passe pour un précurseur aussi de
l'anarchie. C'est 1789, hein. Non,
non, 1750-1803, c'est marqué là.
Ah oui, oui.
D'accord. Il passe pour un précurseur de l'anarchie. Bon, il faut quand même souligner qu'il a écrit un projet d'une loi portant défense d'apprendre à lire aux femmes.
Oui.
Hein, voilà, c'est quand même redoutable.
Mais ça, ce n'est qu'un côté de sa personnalité. C'est un écrivain très original. Il a imaginé, par exemple, avant 1789, deux ans avant, je crois, un almanach. Des honnêtes gens pour remplacer l'almanach religieux avec les saints qu'on connaissait. Et son livre a été brûlé par la justice en public. Voilà, il a pris une peine de prison. Et depuis, il n'a plus signé ses livres. Donc les comptes sur vos revenus qui sont là lui sont attribués, mais en fait, il n'y a pas de nom d'auteur, mais c'est sûrement lui.
Bon, on va écouter Triboulet. Qui va se casquer pour une dure épreuve, là, on va t'écouter.
Alors là, il va vous dire La Résurrection, qui est un des contes saugrenus.
Je vais essayer. Le dernier jour du monde, le grand jour du jugement étant arrivé, le Fils de l'homme parut dans les nuées avec vertu et gloire, avec une grande puissance et une grande majesté, et vint renverser l'ordre des choses qu'il n'avait pas arrangé, du même droit dont les oints du Seigneur avaient renversé jusqu'alors les femmes et les filles des simples mortels. Le soleil et les étoiles tombaient des cieux, je ne sais pas où. Les flots de la mer faisaient un très grand bruit, les voûtes des cieux étaient ébranlées. On vit une armée environner Jérusalem. On savait donc que la désolation était proche. Jérusalem fut foulée aux pieds, et il y avait des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Les hommes, séchant de crainte, attendaient ce qui devait arriver à l'univers entier. Les anges qui avaient tout exprès mangé la veille quantité de fèves sonnaient de la trompette dont la voix de tonnerre assembla les élus des quatre vents. Une terreur panique vint saisir les âmes des lâches mortels. Chacun craignant uniquement pour sa vie et son salut, oubliait tout le reste. Ce fut en ce moment que toute dissimulation cessant parmi les humains, les prêtres, ôtant le masque de l'hypocrisie qui les avait couverts jusqu'alors, avouèrent qu'ils étaient tels que saint Cyprien les a dépeints il y a longtemps, je veux dire des fourbes ambitieux, des négociants avares et des ignorants, les princes qu'ils étaient des monstres empourprés qui donnaient des lois de dracon écrites avec du sang humain. Saint Jérôme avait honte d'avoir parlé le langage des Halles, comprenant alors que la chose ne s'accordait guère avec la dignité d'un père de l'Église. Les moines confessaient sans détour qu'ils étaient de véritables cochons, ne tenant de l'homme que la figure, faisant et souffrant mille sottises publiquement et mille turpitudes ineffables. eux auxquels il ne fallait qu'un habit noir, une conduite indécente également ridicule pour exercer sur les hommes ce pouvoir absolu qu'ils avaient tant usurpé. Les femmes ne faisaient plus mystère de la haine qu'elles portaient à leur mari, ni les ministres flatteurs du mépris profond qu'ils se sentaient pour leurs souverains imbéciles. La confusion qui parut alors sur la surface de la terre n'était pas moins grande que celle qui régnait dans les sombres réduits des tombeaux. Ici se promenait une tête coupée, cherchant le cou auquel elle avait appartenu. Là se montrait un membre abandonné, ne sachant où trouver le corps auquel il avait été attaché autrefois. Ici une fesse isolée cherchait sa compagne. Là un visage rongé par la vérole allait à la piste de son nez et de ses oreilles. On voyait des hérons enterrés en Europe chercher leur armure de chair dans les contrées les plus éloignées de l'Amérique. Un pauvre matelot, avalé un jour avec des gros poissons, parmi lesquels furent pris et mangés par les pêcheurs, qui les ayant digérés s'en étaient défaits sur un fumier, où des corbeaux venaient prendre leur repas, qui furent eux-mêmes déchirés et consumés par d'autres oiseaux de proie, lesquels étant pourris sur un champ, graissèrent la terre, où ils firent croître le blé, qui étant devenu du pain, fut mangé d'abord, etc., etc. Ce pauvre matelot ne savait comment rassembler les 100 000 parcelles qui avaient autrefois composé son être. Cependant, chacun ayant rapiécé son corps comme il put, on vint comparaître devant le tribunal établi, comme l'on sait dans la vallée de Josaphat. Place un peu trop étroite en vérité pour contenir tant de milliards de générations. Mais quand il s'agit de matière de foi, il ne faut pas y regarder de si près, le miracle étant toujours d'autant plus grand que la chose est plus absurde et plus impraticable. Voilà Adam qui se présente le premier avec sa Ève à la tête de ses enfants dont la plupart n'ont jamais entendu parler de ce père prétendu. Il ne saurait revenir de son étonnement en voyant ses androgynes, dont le mamelon droit est mamelon d'homme, et le gauche téton de femme, ne pouvant se persuader en aucune manière que ces espèces bizarres descendent de lui, non plus que les Chinois, les Cafres ou les Hottentots. Vient après Abraham, avec sa servante Agar, et un grand train de petits-fils et de petites-filles. Vint Amon, avec sa sœur, la jeune Tamar, Dina avec le prince de Sichem, Gomer, fille d'Ébalaïm, avec le prophète Osée, lequel, forniquant 3 années, lui a fait 3 bâtards. Holoferne avec Judith, Sisara avec Jaël, David avec Bethzabée, et Shelomo entourait les plus jolies pièces de son sérail. Peu s'en est fallu que je n'ai oublié Rahab la paillarde, qui est une des aïeules de notre sauveur, lequel compte encore parmi celles dont il est né l'incestueuse Tamar, l'impudente Ruth et l'adultère Bethzabée. Vient après l'ange qui a baisé Marie par l'oreille, et suit enfin avec la belle Madeleine Jésus-Christ lui-même, qui pour tout au monde ne veut point passer pour bâtard, prétendant être entré dans sa mère par le sommet de la tête. Le train est terminé par les rois et les papes, suivis de leurs maîtresses, parmi lesquelles se distingue la sainte Hélène, fille d'Écurie, autrefois qui a donné à Constance le pâle. Ce bâtard célèbre, ce Constantin tyran affreux, s'il en fut jamais. C'est ici que paraît Charles VII, avec Agnès Sorel, François Ier avec la duchesse d'Étampes, Henri II avec sa vieille Diane, Henri IV avec la duchesse de Beaufort et la marquise de Verneuil, et Louis XIV avec une foule de petites grivoises. L'incestueux Alexandre VI s'approche avec sa fille, qu'il aime d'un amour un peu plus que paternel. Sergius III vient accompagné de Marozie, et Jean X de Théodora. Ces rebuts de l'espèce humaine, qu'on appelle philosophes, qui n'ont jamais cru à la résurrection, ne ressuscitèrent pas pour châtiment de leur incrédulité. Du reste, ces gens aimant pour la plupart la solitude, ils n'auraient su que faire en si mauvaise et si bariolée compagnie. Aussi craignait-on leurs plaisanteries par lesquelles ils auraient dérogé terriblement à la solennité de la fête. Mais quel que sache que fut l'expédient qu'on avait imaginé pour se garantir de toute moquerie, on ne songea pas à prévenir un autre inconvénient.
qu'on ne pouvait manquer d'arriver, qui ne pouvait manquer d'arriver, qui devait causer un assez grand scandale. Les hommes revêtus de chair et de nerfs sentirent d'abord les désirs relatifs à un certain membre qu'on avait oublié de leur ôter. Ce fut une résurrection générale. Monsieur Adam allait enfiler sa Ève, à la face de tous ses enfants. Le roitelet David se jetait sans façon sur Bethsabée, et le reste des hommes était sur le point de suivre ses grands exemples, lorsqu'on s'aperçut tout d'un coup que les femmes n'avaient plus ce qu'il leur faut pour faire cesser agréablement une résurrection. Désespoir extrême des deux côtés. Il faut débander l'arc, autrement on risque de le rompre. Il n'y avait que l'ange, amant de Marie, qui put satisfaire son goût singulier, la Sainte Vierge ayant encore ses oreilles. Cependant, personne ne se sentit d'imiter cette galanterie angélique. On aima mieux suivre l'exemple d'un pape qui, se souvenant de la méthode qu'on pratique en Italie, l'exécuta incontinent sur l'un de ses cardinaux. Le reste des hommes faisant de même, la résurrection cessa bientôt, et celle-ci finit, je m'éveillai. Car vous devez savoir que ce n'est qu'en songe que Dieu m'a révélé ses grands mystères. Ô vous, femmes et filles, priez le bon Dieu jour et nuit, qu'il fasse mentir les saints pères qui tâchent de vous ravir votre petit bijou. Suppliez-les instamment de vous faire ressusciter avec lui et de ne pas vous priver de cette charmante bagatelle qui fait tout votre mérite. Figurez-vous, ô mes petits cœurs, quelle misérable figure vous feriez dans l'éternité, dépouillée de ce qui fait l'unique objet de notre adoration. Ces saints pères sont des gens bien impolis et bien cruels de vous traiter de la sorte. Mais pardonnez-leur en bonne chrétienne pour l'amour de leur grande ignorance, et tâchez d'empêcher par votre dévotion et par vos prières ardentes, adressées sans relâche au juge des juges, l'accomplissement du malheur dont ces vieux fous vous menacent. Ainsi soit-il.
Amen. Bravo, Tribulet. C'était pas facile. Ça devait pas être facile
formidable.
À faire. Bien, très, très formidable. C'est un très beau. Oh, ça, c'est un très beau texte. Alors, c'est sous le pseudonyme du chevalier de Percefleur en plus, hein, que Louis Perceau et Fernand Fleuret, bibliothécaires à l'Arsenal, ont publié la Bibliothèque des Curieux en 1927, une réédition des Contes saugrenus, Paris anonymement en 89.
Voilà.
Mais c'est magnifique.
Oui.
Hein, ça va chercher loin. Hein. Au niveau de la morale, on peut y aller là. Merci Monique. Remettez-vous un peu de vos émotions.
Thank you.
Ah ben oui, c'était effectivement un très très beau texte, mais je veux dire que là-dedans, on va revenir sur un tout petit point, c'est que ces morales et ces moralistes manquent souvent d'humour. Parce que lorsque, d'ailleurs je lisais le vers de Gladiator, on dit de lui qu'il s'auto-sodomise, mensonge, le poète n'est pas un acrobate. Oui, on voit très bien qu'on est dans l'humour à l'état pur, là. Voilà. Hein.
Mais dans Sylvain Maréchal aussi, et on pareil, a l'humour.
C'est exactement la même chose. Oui, oui. C'est exactement la même chose. Bon, tu commences, bah, chaque numéro, il y a ce qu'on pourrait appeler ça, les grands-pères prodigieux. Qui va chercher des gens.
Des auteurs oubliés.
Des auteurs oubliés, là. On a eu d'Hervilly, on a eu Catulle Mendès, on a eu des gens comme ça. Mmh, hein, mmh. Voilà. Et là, c'est Paul Hervieux. Je ne sais pas qui connaît Paul Hervieux, là.
Non.
Non, non, jamais non. Entendu parler.
Personne ne connaît
Paul Hervieux. Tu essayes de nous présenter, et après, je vais essayer, moi, en guise de revoir, de lire un tout petit texte.
Eh bien, il a été académicien. Il a été académicien pendant une grande partie de sa vie. Mais en fait, il rencontre Octave Mirbeau, avec qui il naît en 1857, et il rencontre Octave Mirbeau en 1883. Il a une longue, longue amitié avec Octave Mirbeau pendant toute sa vie. Et ils fondent des revues ensemble, dont une revue qui s'appelle Les Grimaces, qui était une revue un petit peu antisémite, voilà, mais qui ne va pas durer. Et après, tous les deux se mettent à défendre Dreyfus, hein, se mettent du côté de Dreyfus. Et lui, il entre à l'Académie française en 1900, et il se bat en duel. C'est comme ça que je l'ai trouvé. En fait, je l'ai trouvé en regardant un quotidien qui s'appelle Le Matin, de l'année 1910, et qui signalait le duel de Paul Hervieux avec Léon Daudet.
Léon Daudet, cette crapule.
Voilà, alors Léon Daudet, cette crapule, je connaissais, mais Paul Hervieux, j'avais jamais vu son nom, et donc j'ai été voir qui était Paul Hervieux. Voilà.
D'accord. Et il a une biographie qui est assez dense, dont un livre, je ne sais pas, tu ne l'as pas lu, et moi non plus, je ne sais même pas si c'est trouvable, c'est Théroigne de Méricourt. Il a fait un Théroigne de Méricourt.
Voilà, c'est une pièce de théâtre.
Ouais, hein. Ah bon, d'accord, je ne savais pas ça.
Il a fait plusieurs pièces de théâtre qui ont été jouées à la Comédie française par Sarah Bernard.
Donc il était quand même très connu.
Il était connu à son époque.
D'accord.
Bien sûr, bien sûr. Et il a été complètement oublié.
D'accord. Et tu conclus en disant, j'avais beaucoup aimé la précision, toute son œuvre est disponible sur Amazon au prix de 48 euros le volume.
Voilà.
Ce qu'on va faire, bon, on va conclure, on va faire un petit... attends, il faut que je trouve le... Alors, c'est page 4, monsieur Triboulet. Page 4, tu as le... Sous le quinconce, tu l'as ça ?
Oui, oui.
On va faire ça en duo pour se quitter. Il n'y a qu'un banc double, il est vrai, mais le dossier est si bas qu'on l'a toujours trouvé incommode et qu'on ne le recherche pas. Pendant des années, M. Versois et M. Dingrin ont eu l'habitude, le jour du repos en été, de venir s'asseoir là, côte à côte, face à face. Puis se sont brouillés pour une cause futile et avec la conviction d'ailleurs que cela ne saurait durer. Chacun se disait que l'autre ne tarderait pas à prononcer les quelques paroles qu'il suffirait de dire pour que le différend fût arrangé. En effet, aucune cause de dissentiment ne pouvait être sérieuse entre eux. L'un était veuf et l'autre vieux garçon. M. Versois allait prendre sa retraite dans le foyer de la mairie en même temps que M. Dingrin prendrait la sienne de la caisse d'épargne. M. Dingrin était rond et obèse, M. Versois était plat et maigre, et le médecin déclarait que cela venait à l'un à l'autre d'un même principe, celui de l'arthritisme. Enfin, les occasions de s'attiser l'un l'autre par de mauvais frottements ne leur étaient pas nombreuses, puisque leur rapport ne constituait guère qu'à passer ensemble la journée du dimanche sur le banc commun. Au début de la rupture, l'usage s'établit entre eux, que le premier arrivé prit le côté qui les réunissait jadis, et le second s'installait à l'opposé. Comme chacun d'eux occupait le milieu du siège, ils connurent aussitôt l'impression nouvelle, dos à dos, dos contre dos, de se sentir, de se tâter.
Monsieur Dingrin pensait, c'est tant pis pour Versois d'être fâché avec moi, je me passe très bien de lui. Il n'aurait qu'un mot à m'adresser, ça le regarde. M. Versois n'avait pas non plus d'hésitation. « Je n'ai aucun problème de Dingrin, songeait-il. Je ne lui en veux pas. Quand ça lui coûtera d'être fâché, il n'aura qu'à faire le nécessaire pour se tirer de là. » Ce fut ainsi qu'une saison, puis d'autres et d'autres encore se succédèrent. Et de la sorte, ils apprirent l'art de s'adosser l'un contre l'autre pour suppléer à l'insuffisance du dossier du banc. Le dos de M. Dingrin étant moelleux, celui de M. Versois étant fermé lisse, le changement respectif de leurs attitudes était devenu un bienfait matériel pour chacun d'eux. N'ayant aucun sentiment de haine l'un à l'égard de l'autre, sans articuler un mot, ils établirent une pratique d'indication mutuelle par de petits déplacements des omoplates ou des reins. Discrètement d'abord et franchement, largement par la suite, ils se donnèrent du dos, s'en réclamèrent, en ajoutant, en retirant au gré des réclamations mutuelles et des mouvements expressifs. Désormais, avec le temps écoulé, la brouille est devenue irrévocable. Ni M. Versoix, ni M. Dingrin n'admettent l'éventualité d'une réconciliation aussi tardive, et il est évident qu'ils n'échangeront plus une parole en ce monde. Mais aujourd'hui, moins que jamais, en vertu d'une manie accrue par l'âge, ils ne sauraient se passer l'un de l'autre sur le banc du quinconce. Ils s'appliquent à ne point trop s'y devancer. Le premier arrivé se préoccupe du retard de l'autre, regarde pour le voir venir. Et en attendant, il se penche en avant, les coudes sur les genoux, la canne occupée à tracer des ronds dans le sable, le dos désœuvré en se réservant.
Non, terrible, hein, c'est la condition humaine. C'est la condition humaine, hein. Voilà. Tu sais, ça me rappelle, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Il y a un film de Ridley Scott qui s'appelle Duelliste.
Ouais.
Je sais pas si tu l'as vu. C'est deux types pendant les campagnes napoléoniennes.
C'est un très beau film.
C'est une splendeur. Et puis, alors, c'est la condition humaine. Hein. Et ouais. Ils vont se haïr pendant sans au juste savoir pourquoi ils se sont bousculés un jour.
Enfin, c'est surtout la napoléonienne. Hein,
ils se poursuivent. Et quand il y en a un qui meurt à la fin, il y en a un. L'autre, il ne sait plus quoi faire. Et ça, c'est tout le rapport de la condition humaine.
On ne parle pas du même film.
D'accord. Donc, toi, tu parles de quoi? De la guerre des étoiles?
Tu ne parlais pas de duelliste?
Si. Duelliste.
Il n'y en a pas un qui meurt?
Ah, non, mais il y a un duel à la fin.
Il y a un duel.
L'autre,
oui.
Il est foutu. Il y en a un qui est foutu.
Oui, il y en a un.
D'accord,
qui est foutu.
Il y en a qui vous a dit, voilà. Donc, l'autre ne sait plus quoi faire. Mmh. Bon, il y a tout ça sur Empreinte numéro 40. Eh bien, ouais, Romain, c'était un plaisir.
Ben, je voulais remercier d'abord Claude Brabant de m'avoir invité parce que quand. On arrive à faire des choses, c'est ça qui est le plus difficile et elle réussit très bien. Et je la remercie de m'avoir invité pour participer à ce numéro.
Merci
41.
À toi,
et je voulais aussi remercier Thomas Hirschand qui a écrit cette lettre et qui a bien voulu accompagner ces images pour cette revue.
Donc, je vous conseille Christina SLV, Faire son âge, très belle exposition, c'est jusqu'au 4 juin, c'est Galerie des Patriarches, c'est 12 rue des Patriarches, dans la rue Mouffetard, 7505 rue Mouffetard. Je vous rappelle que le 19 juin, on suivra Patrick de Haas pour le cinéma absolu 1920-1930, et aussi de lire, bien sûr, Les années clandestines d'Éric Tessier aux éditions Douros. J'espère qu'on pourra faire un petit direct par téléphone avec Éric avant longtemps. Et on peut voir Madame Brabant en chair en os.
Au marché de la poésie, à partir de mercredi prochain jusqu'à dimanche soir, c'est-à-dire du mercredi 7 au dimanche 11. De 11h à 10h du soir, je crois. Voilà, j'aurai tous les numéros d'empreinte et les quelques livres que j'ai faits.
Bon.
Et je serai au stand 310 avec la librairie La Lucarne des Écrivains.
C'est parfait. Petite parenthèse, le Gladiator qui était un polémiste magnifique dans Éléphants de la Patrie a imaginé un régiment d'éléphants qui détruit le marché de la poésie.
Ah, oui.
Ça c'est la première chose. Et il avait cette formule il disait que les marchés de les foires aux bestiaux et les marchés de poésie ont en commun les bêtes à cordes.
Très bien.
C'est pareil. On ne trouve plus. Il n'y a plus ce genre de dans un certain monde ce genre de plumes. C'était mieux.
Ouais, ouais.
C'était vraiment une plume.
On n'a plus de contestation, peut-être.
Voilà.
C'est peut-être.
Il faudrait quand même remercier Madame en cabine qui a eu bien du souci, Madame Monique, encore une fois, pour la. Voilà. Hein, oui. Monsieur Triboulet a souffert, monsieur.
D'autant plus qu'elle n'arrête pas de me faire des grimaces.
Merci, Monique, à bientôt.
Thank you. Sa robe de bure sonnera le glas jusqu'en 100 000. Un cran d'arrêt sur le futur triste colosse au pied d'argile.
Il est d'autres moyens et que.
Si Géo dans sa robe de pure sonnera le glas jusqu'en 100 000. Un cran d'arrêt sur le futur triste colosse au pied d'argile. Au Fukushima, mon amour, vivre d'atomes et d'eau pas fraîche. Ça fait des vagues sur les beaux jours, des tsunamis dans les dépêches. La loi bataille avec les mots pour habiller les illusions. Derrière les mensonges, le labo se cache la mort au plus profond. Démocrature qui sort ses griffes, la chance à meute au petit matin. Qui sur les fronts alternatifs colle un pétard républicain. Au bois. Un, deux, trois, tu viens avec moi. Tant que la poubelle n'y est pas. Atomiser tous les combats, terroriser l'opposition. Le pouvoir fait son cinéma, la vie des autres comme ambition. Barbouze dressée pour la peur et Robocop en hélico. En garde à vue, petite sœur, pour juste vouloir un monde plus beau.
Un, deux, trois, nous irons au bois. Un, deux, trois, tu viens avec moi. Un, deux, trois, nous irons au bois.
Sous les nuages blancs des centrales, le cri des grands oiseaux de nuit, cloués aux portes du capital, cœur en fusion d'aimer la vie. Si j'ai eu sa robe de pure, quand sera-t-il en l'an 100 000? Combien d'années pour ce futur pauvre colosse au pied d'argile? Un, deux, trois, nous irons au bois. Un, deux, trois, tu viens avec moi. Au bois.
Assis sur le bord de la roche, falaise blanche et ciel tout proche, je regarde le monde en bas. Je vois les routes où l'on se presse, les doigts du soleil qui caressent les cimes des sapins là-bas. Pas un souvenir, une trace d'un nuage léger dans l'espace, c'est peu de dire qu'il fait beau. L'après-midi serait parfaite, mais voici que vient dans ma tête un nom lointain, Guantanamo. D'ici les gens sont dérisoires, petits leurs soucis, leur histoire, dans la brume bleue de la plaine. Village jeté dans les champs, maison minuscule cachant quelques bonheurs et quelques peines. Elle a plongé dans la beauté, je respire la liberté, plus bas que moi plane un oiseau. À peine si le vent se plaint, dans les branches tordues des pins, les murmures Guantanamo. C'est très loin, par-delà les mers, cerné de gris, bâti de fer, sans loi ni droit, une prison, où des hommes sortis du temps sont brisés, niés, sans jugement, plus d'existence et plus de nom. Menottes, caméras, c'est ici, sous ces blancs tropiques, la civilisation, degré zéro. Quelle que soit l'horreur du forfait, chacun a droit à son procès, oui mais pas à Guantanamo. Je me rappelle, excusez-moi, dans le brouillard certains qu'on voit partant de nuit vers la mort lente. Qui sait comment cela revient, la bête immonde n'est pas loin, elle est sournoise, elle est patiente. Voici que le couchant rosie la paix du soir, comme l'on dit, sur les monts pose son manteau. Me reste à prendre le chemin, et puis pour demeurer humain, à pardonner Guantanamo.
Tu précipices, là sous ton pull, ton cœur t'étrisse. Quand tu t'envoles, c'est tout là-haut, faut que ça décolle, que ce soit beau. Odeur d'orage, toi sur le fil, la vie, la rage, s'efface sous pile. De l'eau qui pleure sur le pavé, c'est le bonheur qui s'est taillé comme un éclair, un courant d'air, coup de tonnerre, l'amour par terre. Dans le silence bleu électrique, plus aucune danse pour la musique, nuit au vitrail, des projecteurs au festival, tout en douleur, comme un éclair, un courant d'air, coup de tonnerre, l'amour par terre. L'amour par terre. Jongle la vie avec tout ça. comme un défi, ce cœur qui bat. Tout ce que tu mets dans tes valises, c'est que des couplets pour les églises. Comme un éclair, un courant d'air, coup de tonnerre, l'amour par terre. L'amour par terre, l'amour par terre, l'amour par terre.
Makhnovtchina, Makhnovtchina, tes drapeaux sont noirs dans le vent. Ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang. Ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang. Par les monts et par les plaines, dans la neige et dans le vent, à travers toute l'Ukraine, se levaient nos partisans. À travers toute l'Ukraine, se levaient nos partisans. Au printemps, les traités de Lénine ont livré l'Ukraine aux Allemands. À l'automne, la Makhnovtchina les avait jetés au vent. À l'automne, la Makhnovtchina les avait jetés au vent. Makhnovtchina, Makhnovtchina, armée noire de nos partisans qui combattaient en Ukraine contre les rouges et les blancs. Qui combattaient en Ukraine contre les rouges et les blancs. L'armée blanche de Denikine est entrée en Ukraine en chantant, mais bientôt la Makhnovtchina l'a dispersée dans le vent. Mais bientôt la Makhnovtchina l'a dispersée dans le vent. Makhnovtchina, Makhnovtchina, armée noire de nos partisans, voulait chasser d'Ukraine à jamais tous les tyrans. Qui voulait chasser d'Ukraine à jamais tous les tyrans. Makhnovtchina, Makhnovtchina, tes drapeaux sont noirs dans le vent. Ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang. Ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang. Makhnovtchina, Makhnovtchina, tes drapeaux sont noirs dans le vent. Ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang. Ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang.
Ses yeux fermés, ses bouches muettes, tous ses dos courbés, toutes ses défaites. Sur notre pays, rien que la grisaille, rien que le mépris pour ceux qui travaillent. Ne me dites pas, le monde est ainsi fait, on n'y peut rien changer. Pour nos souverains, tant de complaisance, ceux qui vivent bien flattent leur puissance. Faut dire que la morale s'endort quand on a chez soi des coffres pleins d'or. Ne me dites pas, le monde est ainsi fait, on n'y peut rien changer. Le respect peureux, les sourires complices, des hommes ou de Dieu, qui veut l'injustice, qui veut la famine, et la guerre au loin, à ployer les chines, on ne voit plus rien. Ne me dites pas, le monde est ainsi fait, on n'y peut rien changer. Faudra qu'un jour l'un de nous se lève et parle d'amour et parle de rêve. Seul celui qui doute est digne de foi. Je choisis ma route, mon chemin de roi. Ne me dites pas, le monde est ainsi fait, on n'y peut rien changer. Ne me dites pas, le monde est ainsi fait, on n'y peut rien changer.
Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu, sans maître, sans publicité, la radio de la Fédération anarchiste. On est lundi, il est 16h, c'est l'heure de Trou Noir. Alors aujourd'hui, pour démarrer Trou Noir, certains d'entre vous se sont peut-être aperçus que l'équipe de Trou Noir était absente la semaine dernière. Alors nous étions absents parce que nous étions au congrès de la Fédération anarchiste et nous vous en avons rapporté deux motions que je vais vous lire. Alors tout d'abord, la première est illustrée d'un très joli dessin avec comme texte salaire léger, char lourd. Et sur le dessin, c'est évidemment un char militaire. Le texte. Démocratie blindée, liberté en danger. L'actualité récente de 2023 concernant la réforme scélérate et injuste de recul de l'âge de départ à la retraite est tout à fait révélatrice. Ce gouvernement, comme les précédents, se réclame démocratique, mais il ne s'agit là que d'une sinistre parodie et d'une escroquerie intellectuelle et politique. La Fédération anarchiste dénonce depuis toujours les gouvernements qui, tous, privent les populations de leur droit de décider pour eux-mêmes et par eux-mêmes de la gestion de leur vie et de leur avenir. À en croire les élites gouvernementales, la population ne serait pas assez qualifiée et en mesure de prendre des décisions les concernant directement, nous reléguant de fait en position de dépendance factice des élus. Or, nous n'avons besoin ni de chefs ni d'élus pour gérer nos affaires nous-mêmes. Rappelons ici que la légalité qu'ils utilisent n'est rien d'autre qu'un rapport de classe fossilisé. En revanche, les anarchistes portent la légitimité d'aspiration à faire advenir la justice sociale ici et maintenant. La Fédération anarchiste dénonce toutes les stratégies pour construire la pensée unique, l'identité unique et la mise en place de fichiers tendant à qualifier et quantifier la population pour mieux la contrôler et l'assujettir au service du système capitaliste, France Travail et autres. Le mépris de classe et la répression terrible pour asseoir leurs desseins est le terreau de l'émergence de la montée des idéologies du rejet de l'autre, de la xénophobie et du fascisme. La répression systémique des mouvements de contestation est totalement décomplexée, débridée, délétère, mutilante, mortelle. des arrestations arbitraires, des gardes à vue systématiques injustifiées, des violences policières comme à Sainte-Soline et à Mayotte, la réintroduction des brigades à moto Brave M hautement dangereuses. L'État cède de moyens techniques de plus en plus sophistiqués pour atteindre les corps et les esprits. L'intelligence artificielle, la reconnaissance faciale, les tests ADN, les drones. Ces actions sont destinées à pister, repérer, tracer, ficher, arrêter et incarcérer tout individu osant avoir des idées contraires.